RJB Info.
Le journal avec vous, Anastasia Lirti, bonjour.
Bonjour. Exit la cravate et le foulard. La banque Caisse d'épargne de Courtelary a revu son code vestimentaire. Dès le 1er janvier, les employés troqueront l'uniforme pour un look moins formel. L'ouverture complète de l'A16 a eu lieu au printemps dernier, un événement majeur pour la région. Alexandre Steiner nous fait revivre cette inauguration dans notre série sur les faits qui ont marqué l'année 2017. C'est parti pour la tournée des 4 tremplins. La première manche de cette compétition de saut à ski commence aujourd'hui en Allemagne. Présentation des favoris dans le point sport. Météo, les éclaircies laisseront place à un ciel couvert. Des averses de neige sont attendues jusqu'en plaine en cours d'après-midi. Il fera 1 à 2 degrés au meilleur de la journée. Les cravates et les foulards vivent leur dernière journée à la Caisse d'épargne de Courtelary. La direction de la banque a décidé de ne plus imposer de tenue réglementaire stricte à ses employés dès le 1er janvier. C'est la première banque de la région et peut-être même de Romandie à casser le code vestimentaire. Les responsables de l'établissement, qui possède plusieurs succursales dans le Jura bernois, souhaitent ainsi briser l'image austère du domaine et se rapprocher de la clientèle. Une conseillère en images a épaulé les employés pour que cette transition se passe sereinement. Le directeur de la Caisse d'épargne de Courtelary revient sur l'origine de cette petite révolution vestimentaire, Rémi de Philippi.
Cette démarche est née grâce à vous, grâce à RJB. En descendant au travail en après-midi, j'ai entendu un reportage de Mme Perez-Chitra qui parlait justement du code vestimentaire et qui faisait une remarque sur le secteur des banques et des assurances qui avait un style vestimentaire qui était très strict. Ça m'a fait réfléchir puisqu'on était déjà dans cette réflexion de vouloir changer. J'ai pris contact avec Mme Perez-Chitra et de ce contact-là a démarré toute une réflexion, un projet qui aboutit maintenant à partir du 1er janvier 2018, à ce nouveau code vestimentaire, un peu plus ouvert et un peu plus proche de nos clients.
Dès la semaine prochaine, vous tombez l'uniforme, si on peut dire, mais il y a quand même évidemment des limites qui ont été posées. Comment ça s'est passé ?
Alors, ces limites ont été posées par nos employés eux-mêmes. Dans le cadre de la réflexion avec Mme Perez-Chitra, nous avons élaboré un planning avec, dans ce planning, une séance un peu brainstorming dans laquelle participaient une dizaine ou une douzaine d'employés. Puis on ne voulait surtout pas que ce soit les cadres de direction qui participent pour éviter d'être influencés. Donc c'est ces employés-là qui ont mis un cadre, avec l'aide de Mme Perez-Chitra, ont mis un cadre à ce code vestimentaire en excluant les extrémités où c'était trop business, ou bien où c'était trop sport, ou bien trop loisir.
Des propos recueillis par Natacha Mengoli, cette modification du code vestimentaire s'accompagne aussi d'un changement de nom. Dès la semaine prochaine, le terme banque CEC, jugé trop anonyme, sera abandonné au profit de Caisse d'épargne Courtelary, jugé plus local et plus parlant pour la population. Plus que 3 jours et nous serons en 2018. Durant cette dernière semaine de l'année, RJB revient sur les événements marquants qui ont fait 2017. Place aujourd'hui à l'ouverture de la 16. Le dernier tronçon de la Transjurane a été inauguré le 3 avril dernier, alors que le premier coup de pioche avait été donné le 23 septembre 1987. Avec l'achèvement de ce chantier, il est possible de relier Bienne à Boncourt sans quitter l'autoroute. L'émotion était à son comble à l'heure du coupé du ruban. Retour sur ce moment fort avec Alexandre Steiner.
Plus de 300 invités avaient fait le déplacement ce lundi 3 avril pour assister à l'ouverture du dernier tronçon de l'A16, celui qui relie Cours à l'Ovresse. À l'heure des discours, la conseillère fédérale Doris Leuthard a évoqué une journée historique pour la région, mais aussi pour l'ensemble du réseau autoroutier suisse. Au-delà des aspects pratiques liés à l'ouverture complète de l'autoroute, cette cérémonie a surtout permis de mettre en lumière une formidable aventure humaine et de saluer le travail souvent difficile des milliers de personnes qui se sont engagées pour réaliser cet ouvrage. Le chef de la section route nationale à l'Office des ponts et chaussées, Jean-Pierre Turcher, a par exemple consacré plus de 30 ans à ce chantier. À l'heure de l'inauguration, il comparait ce projet à une expédition en montagne.
Parce que finalement, il fallait transpirer pour avancer, mais il fallait aussi être en équipe. Vous n'allez pas en montagne seul comme un solitaire faire des grands travaux, faire des grands exploits. Il faut être une équipe assez consistante, était bien préparé pour avancer.
D'autres, comme le chef de projet de l'A16 pour le canton de Berne, Alain Koenig, n'oublieront jamais certaines anecdotes.
J'en ai une extraordinaire. Je m'occupais en 2008 du tunnel de Moutier où le tunnel y était bloqué, puis il fallait fixer le fameux jour de la sortie. Et puis c'était difficile parce qu'il fallait bien anticiper, parce qu'un jour de plus, un jour de moins coûte cher, donc on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Pour finir, on a choisi le 8 mai, mais dans l'après-midi, pour se donner encore un peu de temps. Tous les journalistes ont un peu fait la tête parce qu'ils préfèrent le matin, leur article est réglé. Et puis ce jour-là, tôt dans la nuit, je suis descendu à l'hôpital avec mon épouse qui devait accoucher. Ma fille aînée, je suis rentré à la maison, j'ai préparé les enveloppes, j'ai posté, et puis après je suis allé à la sortie du tunnelier.
Si ce 3 avril 2017, ce sont surtout les dirigeants du chantier qui ont donné de la voix, les milliers de travailleurs qui ont permis la réalisation n'ont pas été oubliés. Le portrait géant d'un mineur réalisé par l'artiste Seip était là pour rappeler l'importance de leur engagement. L'autoroute, quant à elle, témoignera longtemps des efforts entrepris pour intégrer au mieux ce long serpent de bitume dans le paysage vallonné de la région. Et sur ce plan, la mission est plutôt réussi.
Les avalanches, ce n'est pas un danger qui touche uniquement les Alpes. Le degré d'alerte est de niveau 3 dans la partie sud du Jura, soit dans la région du Val de Travers et du Jura vaudois. Pour qu'une avalanche décroche, il faut que certaines conditions soient réunies. Diane Darms, prévisionniste à l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches à Davos.
On a d'abord besoin d'une couche fragile et ensuite de cette couche fragile, une plaque, alors de la neige liée. Et puis, on a besoin de cette combinaison sur une certaine surface pour que ça peut donner une avalanche. Et à la fin, la ponte doit avoir une déclivité de au moins 30 degrés pour surmonter la friction.
Dans le Jura, il y a vraiment beaucoup d'endroits à risque, de pontes où on peut avoir des avalanches?
Non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ce que nous on fait avec le bulletin d'avalanche, c'est que donner une prévision pour une certaine région. Ce n'est pas une prévision du degré de danger dans une seule ponte, mais pour toute une région. Et puis à la fin, si dans une certaine ponte, il y a là le risque de la neige soufflée ou pas, ça c'est à décider des gens qui se promènent sur le terrain. Sans nous, on ne peut pas faire de Davos.
Diane Darms au téléphone de Myriam Witwer. Le risque d'avalanche de niveau 3 en vigueur actuellement est dû à des accumulations de neige soufflée. Des accumulations qui se situent notamment dans les combes et les couloirs qu'il convient d'éviter. Plainte collective contre Volkswagen pour le scandale des moteurs diesel truqués. La Fondation alémanique des consommateurs a déposé à Zurich une action en dommages-intérêts pour environ 6 000 clients. Le dépôt de la plainte était prévu depuis des mois, d'ici à la fin de l'année, afin de préserver le délai de prescription. L'objectif initial de 2 000 participants a été largement dépassé. Outre Sarine, la Fédération romande des consommateurs a choisi de rejoindre l'action du Bureau européen des unions des consommateurs. Le recours collectif initié par la FRC a franchi une première étape judiciaire civile. Quelques 2000 dossiers devraient être déposés en Allemagne d'ici à la fin de l'année. Une église copte au sud du Caire a été la cible d'une attaque aujourd'hui. 3 personnes au moins ont péri selon les services de sécurité. Un assaillant a été tué par les forces de l'ordre. On ignore à ce stade s'il compte parmi les 3 morts. Les chrétiens d'Égypte, les coptes ont été visés par plusieurs attentats sanglants cette année, la plupart revendiqués par le groupe État islamique.
Il est midi 24.
Sport.
La grande messe du saut à ski commence aujourd'hui. Les meilleurs sauteurs de la planète ont posé leurs valises à Oberstdorf. La station allemande accueille la première des 4 manches de la tournée des 4 tremplins. Les qualifications ont lieu aujourd'hui alors que le concours se déroule demain après-midi. La course à la victoire s'annonce ouverte cette année et le public allemand a de quoi espérer. Émilie Moumentaler. Voilà 16 ans et la victoire de Sven Annavald que l'Allemagne attend que de ses sauteurs grimpent sur la plus haute marche de la tournée des 4 tremplins. Les chances sont grandes, très grandes, que ce soit le cas cette année. Richard Freitag part avec les faveurs de la côte, lui qui semble vraiment armé pour s'imposer. Son compatriote, le jeune et insouciant Andreas Wellinger, devrait lui aussi se mêler à la lutte pour la victoire. Le public autrichien sera sans nul doute derrière Stefan Kraft, alors que le Norvégien Daniel André Tande et le tenant du titre polonais Kamil Stor vont tenter de gâcher la fête des locaux. Côté suisse, à 36 ans, Simon Hamann sera la meilleure chance de top 10, peut-être même mieux, mais le Saint-Gallois ne devrait pas se mêler à la bataille pour le top 5.
Avec 7 skieuses en moins de 30 centièmes, la seconde manche du géant de Lienz promet un sacré suspense cet après-midi. L'Allemande Victoria Rebensburg tient la corde après le premier tracé de ce matin, mais elle est talonnée de près en premier lieu par l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Slovène Tina Robnik. Plus loin, Lara Gut est 11e à 78 centièmes et n'a pas dit son dernier mot sur la piste autrichienne. Reléguée à plus d'une seconde 30, Wendy Holdener et Mélanie Meillard ont-elles perdu quasiment tout espoir de se placer aux avant-postes à l'issue de la deuxième manche, programmée à 13h30. Du côté du combiné messieurs de Bormio, c'est pour l'heure Dominique Paris qui pointe en tête de la descente. Au lendemain de son succès sur le Stelvio, l'Italien devance son compatriote Peter Phil de 50 centièmes et le Norvégien Kjetil Jansrud de 97. Meilleur Suisse alors qu'il reste des skieurs au départ, Mauro Cavizel est 5e, tandis que Nils Mani est 7e et Marc Gisin 11e. La manche de slalom débutera à 15h dans la station italienne. Un jour de repos pour préparer sa demi-finale. L'équipe de Suisse de hockey sur glace n'a pas de match à son programme du jour à la Coupe Spengler de Davos. Elle va donc patienter jusqu'à demain soir pour jouer sa place en finale. Après 38 ans d'absence, la sélection nationale fait un retour remarqué dans ce tournoi grison. Le public donne de la voix à chacun de ses matchs. Les joueurs du HC Davos se réjouissent aussi de cette présence à l'image du défenseur Marc Schliemann.
C'est vraiment très spécial pour eux, je pense que c'est vraiment important parce que c'est la préparation définitive pour les Jeux Olympiques. Donc je pense qu'ils veulent aussi gagner, ils veulent bien jouer pour avoir une chance d'être au tournoi en février.
Puis pour vous, joueur suisse qui pourrait retrouver l'équipe de Suisse sur la glace, affronter sa sélection nationale, qu'est-ce que ça représente ?
Ça serait vraiment bien pour essayer de jouer contre une équipe suisse, pour connaître un peu les niveaux internationaux. Et je pense que ça, c'est un but de tous les joueurs, de pouvoir un jour jouer dans l'équipe suisse. Et c'est un but de moi aussi.
La Suisse est présente dans les grisons pour préparer les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Le sélectionneur Patrick Fischer doit toutefois se passer des services des joueurs de Davos. C'est le cas du défenseur Félicien Dubois. Le Neuchâtelois tente de se faire remarquer avec le maillot de son club, Félicien Dubois.
L'objectif jeu en tête, ça c'est sûr, ça reste aussi présent chez moi. Après, puisque le tournoi est si particulier, oui et non, je pense qu'il serait plus particulier si je le jouais avec l'équipe suisse. Là, c'est sévère maintenant pour... Pour moi, ma routine, entre guillemets, est plus ou moins restée la même. On a notre tournoi à Davos, je joue avec mon club, donc c'est particulier, seulement enfin, à un certain point, c'est pas si une grosse chose que ça. Quoi.
Et puis affronter la Suisse, vous l'imaginez ? Ça serait là quelque chose quand même de particulier, être avec le maillot de Davos et puis affronter sa sélection nationale ?
Ça, ce serait certainement plus particulier. Déjà, je pense que c'est une occasion unique. Je n'ai pas souvenir qu'avec ton club, tu puisses affronter ton équipe nationale. Donc ça, ce serait... Déjà, par ce fait-là, ce serait particulier. En plus, c'est clair que quand tu es aussi candidat à faire partie de cette équipe, ça rend la chose peut-être encore plus particulière. Et... J'ose imaginer que ça rendrait ma motivation d'autant plus grande.
Un dossier de notre envoyé spécial à Davos, Mathieu Schaffner. Les quarts de finale sont au programme de la Coupe Spengler aujourd'hui. Les Lettons du Dynamo Riga défendent les Tchèques de Mountfield Kralov à 15h10, alors que Davos sera opposé aux Finlandais d'Amenlina Palokero à 20h15. Après l'équipe, un autre quotidien sportif de référence a mis Roger Federer à l'honneur. Le Ballois a été désigné athlète de l'année par la Gazette dello Sport. Vainqueur de ses 18e et 19e titres du Grand Chelem en 2017, Roger Federer devance le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, et la star du football, Cristiano Ronaldo, à l'issue du traditionnel vote effectué par le journal italien. C'est la 4e fois que Roger Federer est nommé athlète de l'année par la Gazette dello Sport après son triplé de 2005 à 2007.
Et n'oubliez pas que l'information sportive, vous la retrouvez en tout temps sur notre application pour Android et smartphone. Et ce matin, c'est donc un ciel dégagé qui nous avait accompagnés. Les nuages sont déjà en train de recouvrir l'ensemble de la région. Au maximum de la journée, les températures seront de 2 degrés à Bienne et La Neuville, de 2 également entre Delémont et Moutiers, et de 1 degré à Tavannes et Saint-Imier. Les nuages vont devenir de plus en plus intenses sur l'ensemble de la région, et puis la neige est attendue jusqu'en plaine en milieu d'après-midi.
When our friends talk about you, all it does is just tear me down.